Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de la bonne parole de Dieu. Dans un message précédent, j'ai partagé avec vous quelques pensées concernant la nécessité de vaincre le découragement et nous étions partis dans une première direction pour cerner la nature de ce mal qu'est le découragement. J'aimerais aujourd'hui aborder un autre volet avec vous pour découvrir à la lumière de la parole de Dieu les causes du mal. Quelles sont les causes du découragement dans nos vies? J'ai lu avec attention cette anecdote que j'aimerais partager avec vous maintenant. Se retirant des affaires, le diable décida de vendre ses outils aux enchères. À l'heure de la vente, ils étaient tous exposés, un spectacle affreux à voir. Il y avait là, côte à côte, la haine, la jalousie, la débauche, le mensonge, l'hypocrisie et d'innombrables autres instruments de destruction. Et curieusement, un peu à l'écart, se trouvait un outil d'apparence insignifiante, mais au tranchant bien aiguisé. Et quelqu'un interpella le diable. « À quoi sert cet outil ?»« Il s'agit du découragement, » répondit le diable. « Mais pourquoi l'as-tu mis à un prix aussi élevé ?»« Parce que je l'utilise beaucoup plus que les autres. » Chez certains chrétiens, par exemple, impossible de travailler efficacement avec la plupart de mes outils, sauf avec celui-là. Muni de cet instrument, je pénètre absolument partout. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il soit le plus usé de tous. Ce n'est qu'une anecdote, mais avouez qu'elle nous amène à une sérieuse réflexion. Découvrir les causes du découragement, c'est déjà faire un pas vers la guérison spirituelle. Parce que, soyons vrais, le découragement guette les enfants de Dieu, même les plus affermis. Ne nous croyons jamais trop forts. Le découragement est en général le résultat d'un long travail de sape dans l'âme. Il peut arriver subtilement, il peut arriver brutalement. J'aimerais examiner avec vous 8 causes de découragement, les 8 causes de ce mal dans nos vies. La première, c'est que nous pouvons considérer le découragement comme étant un obstacle insurmontable malgré nos tentatives humaines, charnelles, tous nos efforts personnels pour en venir à bout. Ce qui revient à dire que nous laissons accabler par l'épreuve. David a écrit dans le psaume 38 au verset 7 « Je suis courbé, abattu au dernier point, tout le jour je marche dans la tristesse. » Et quel était le contexte? Il dit au verset 4 « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. » Dans le même verset, il ajoute « Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Et au verset 6, « Mes plaies sont infectes et purulentes. » Si vous êtes tenté de considérer le découragement comme un obstacle insurmontable, si vous avez des tendances à vous laisser accabler par l'épreuve, il faut crier à Dieu qu'il vous donne tout son secours, toute sa grâce pour je vais employer une expression des Actes des apôtres pour secouer la vipère dans le feu et triompher de cette tendance avec l'aide du Seigneur. Une seconde cause du découragement, c'est cette tendance que nous pouvons avoir à nous nourrir de l'épreuve. Je veux dire par là ce penchant à nous entretenir de l'épreuve intérieurement, à en faire une obsession, un point de mire constant du matin au soir et parfois du soir au matin. Et cette tournure d'esprit peut malheureusement nous amener à nous apitoyer sur nous-mêmes. Vous savez, l'apitoiement sur soi est un fléau subtil et destructeur. Il nous emprisonne, il nous étouffe, il nous submerge. Ronald Dunn a écrit « Il nous absorbe, il nous dévore. L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries et cyniques. » Fin de citation. L'apitoiement sur soi, vous l'aurez remarqué chez d'autres ou chez vous-même, nous maintient recroquevillés, les yeux en quelque sorte rivés sur notre moi. Et nous passons alors notre temps à nous poser en victime, à nous prendre en pitié, pardonnez-moi l'expression, à lécher nos plaies, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort, et ainsi, c'est notre propre nature charnelle que nous satisfaisons et engraissons. Nous la caressons, nous la chouchoutons, nous la dorlotons, au lieu de la maintenir crucifiée avec Jésus par la foi. L'apitoiement sur soi, vous savez, c'est comme un serpent venimeux parmi les plus dangereux au monde. Il nous amène à être sans ressort, sans volonté, totalement engourdi comme anesthésié et vidé de toute énergie. Le prophète Jérémie, dans ses lamentations, nous dit au chapitre 3, versets 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Évidemment, si nous passons nos journées à penser à notre détresse, à notre misère, pour reprendre le langage imagé du prophète, à l'absinthe et au poison, il est certain que cette attitude va engendrer un abattement constant au-dedans de nous. Rappelez-vous ce qui s'est passé le jour même de la résurrection du Seigneur Jésus. Ce jour-là, deux disciples s'en vont à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 11 kilomètres. Et ces deux disciples s'entretiennent de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils discutent, Jésus s'approche et il fait route avec eux. Mais la parole de Dieu nous dit que leurs yeux sont comme empêchés de le reconnaître. Et Jésus va leur poser une question très pertinente. Jésus leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et d'autres manuscrits traduisent les paroles de Jésus et nous le trouvons dans le texte original grec. Jésus dit « Quelles sont les paroles que vous échangez entre vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air sombre. Au fond, il y a là un détail très intéressant. Ces deux disciples commencent par s'entretenir de choses négatives. Tout cela déclenche en eux une tristesse profonde. Et au moment où Jésus leur fait don de sa présence, de sa compagnie, alors qu'il marche avec eux, ces hommes sont dans un tel état qu'à un moment donné, ils ne marchent plus, ils s'arrêtent. Non seulement ils marchaient dans la tristesse, mais maintenant ils s'arrêtent alors que Jésus est avec eux. Et il se peut que dans notre marche avec Jésus, nous soyons dans un tel état d'abattement parfois que nous ne sommes plus capables de sentir, de reconnaître sa présence alors qu'il est là, alors qu'il chemine avec nous, il est loin de nous abandonner, il désire nous parler, il désire réchauffer notre cœur, nous fortifier, mais les yeux de notre cœur sont incapables de discerner sa présence, de savourer sa bonté et sa miséricorde, et le résultat, c'est que nous nous arrêtons, l'air sombre. Combien de chrétiens ont besoin de piétiner au nom du Seigneur Jésus leur découragement, leur abattement, parce que c'est souvent cet abattement intérieur, ce découragement qui les a amenés à s'arrêter dans leur marche avec le Seigneur, et il ne faut pas considérer ce mal à la légère, mais il faut en guérir le plus rapidement possible avec l'aide de Dieu. Arrêtons de nous nourrir de nos épreuves, arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes et cherchons le secours dans la personne et dans la puissance de Jésus. Une troisième cause du découragement, c'est l'envie, la jalousie. Je voudrais vous ramener dans les premiers chapitres de la Genèse, plus précisément au chapitre 4. Nous assistons à ce qui s'est passé entre deux frères, Caïn et Abel. Caïn, nous dit la parole de Dieu, fait à l'Éternel une offrande. Et il fait une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau. Il y a là déjà un point de méditation, de réflexion. La parole de Dieu nous donne à ce sujet un enseignement très puissant. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Abel, et que c'est par ce chemin-là qu'il a, en quelque sorte, été déclaré juste, parce que Dieu a approuvé ses offrandes. La foi d'Abel l'a amené à considérer qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu autrement que sur la base du sang. Nous avons là le fondement même de la rédemption par le sang. C'est au moyen du sang rédempteur, de la victime expiatoire, que nous pouvons nous approcher de Dieu, mais vous connaissez ces choses et mon propos n'est pas d'entrer en détail là-dessus. Quant à Caïn, il vient à Dieu avec les fruits de la terre, c'est-à-dire les fruits de son travail, le produit de son labeur, le produit de ses efforts personnels. Il y a là une offrande qui est en quelque sorte l'aboutissement des efforts de la chair. D'ailleurs, même s'il ne s'en est pas rendu compte et il ne le pouvait pas, Caïn a ouvert ce jour-là une voie. Une voie dont il nous est parlé dans le dernier livre de l'Apocalypse. Il est parlé de ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Donc, ce qui a été une démarche personnelle n'en est pas resté là, mais ce fut malheureusement une voie tracée pour des millions et des millions de gens au fil des siècles qui, finalement, se sont fabriqués une religion, j'entends par là l'approche de Dieu, une relation avec Dieu, ou tenter en tout cas d'établir une relation avec Dieu, mais sur la base, non pas du sang rédempteur, mais sur la base de leurs œuvres, de leurs efforts personnels, et nous savons que c'est une voie qui échoue, qui conduit à une impasse totale. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu par la voie des œuvres. Le résultat, c'est que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et le résultat, la parole de Dieu nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Son visage fut abattu. Il n'avait pas compris le chemin par lequel on s'approche de Dieu et par lequel on est béni. Son frère, lui, l'a été. La jalousie est entrée dans le cœur de Caïn. Avec la jalousie, l'irritation. Avec l'irritation, l'abattement. Et malheureusement, on sait sur quoi tout cela a débouché. Caïn a tué son frère Abel. Attention à la jalousie, à l'envie qui peut naître dans notre cœur parfois de notre propre faute parce que nous avons eu des comportements ou un état d'esprit ou une approche de Dieu qui n'était pas dans les conditions que Dieu désirait. Nous n'avons pas été bénis comme nous le souhaitions et puis nous avons vu un frère, une sœur être exaucé, être épanoui, être secouru, délivré, guéri, obtenir telle ou telle grâce, être baptisé du Saint-Esprit, et nous ne l'étions pas, et à ce moment-là, la jalousie a niché dans notre cœur. Il faut absolument réaliser qu'il y a là une troisième cause de découragement et que nous avons besoin d'entendre cette parole du Seigneur adressée à Caïn. Le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Il faut absolument qu'avec l'aide de Dieu, nous triomphions de ce mal si, encore une fois, nous sommes concernés par cette cause de découragement qu'est l'envie ou la jalousie. Et puis il y a une quatrième cause, c'est le fait de ne pas comprendre la pédagogie divine. Et je voudrais vous lire à ce sujet quelques versets de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, versets 5 et suivants, où l'auteur de l'Épître nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Si, à l'heure où je vous parle, vous, mon frère ou vous, ma sœur, vous êtes l'objet de la pédagogie divine, vous êtes à l'école du Seigneur, il est en train de vous apprendre une leçon spirituelle, il est en train de vous corriger, de vous instruire. Allez, je vais employer le mot de l'Écriture. Vous êtes dans un temps où vous devez supporter le châtiment du Seigneur. Eh bien, ne vous découragez pas. Le Seigneur ne commet aucune erreur. Il ne se trompe jamais. Il est sur son trône, je veux dire, il est aux commandes et il sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est parfait et il le fait dans un but. Vous êtes dans sa main, le Seigneur désire vous façonner, il désire vous sanctifier, il désire vous faire progresser dans ses voies. Et à l'heure où nous sommes l'objet du châtiment du Seigneur, ne perdons pas courage lorsqu'il nous reprend, faisons-lui confiance, laissons-nous façonner, modeler, nous le chantons parfois, ou nous le disons dans nos prières, c'est facile de le chanter, c'est facile de le dire dans la prière, c'est moins facile de le vivre, mais nous sommes comme l'argile dans les mains du potier. Et si nous le laissons faire, il fera de notre vie, de votre vie, une œuvre d'art. Une cinquième cause du découragement, c'est de nous laisser impressionner par l'adversaire. Et de nous laisser impressionner par manque de foi, par l'intimidation devant les insinuations de notre ennemi, devant ses défis. Et je vais faire référence à une histoire, un épisode de l'histoire d'Israël que vous connaissez très bien dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Les Philistins avaient réuni leurs armées pour faire la guerre à Israël et ils se sont rassemblés à Soco. Et Saül et les hommes d'Israël se sont rassemblés eux aussi et ils ont campé dans la vallée des Térébintes. Ils se sont mis en ordre de bataille contre les Philistins. Et vous imaginez la scène, les Philistins sont vers la montagne d'un côté, Israël est vers la montagne de l'autre côté et la vallée les sépare. Et alors, un homme sort du camp des Philistins et s'avance entre les deux armées. C'est un homme de grande taille, un géant nommé Goliath. Sa taille est impressionnante. Ses armes le sont tout autant. Et alors qu'il s'avance entre les deux armées, à un moment donné, il s'arrête et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur crie « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. » Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et la parole de Dieu nous dit que Saül et tout Israël entendent ces paroles du Philistin, ils sont effrayés et saisis d'une grande crainte. Et puis, voilà qu'arrive sur le champ de bataille un certain jour, parce que le défi lancé par Goliath a duré 40 jours, voilà qu'arrive sur le champ de bataille un certain jour un jeune homme nommé David, envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères qui, eux, sont engagés dans l'armée de Saül. Donc David arrive sur le champ de bataille, il parle avec ses frères, il leur demande comment ils se portent, et tandis qu'il parle, voici que le Philistin, Goliath, s'avance entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Et je précise une chose, Goliath n'a pas rapetissé au fil des jours. Il est toujours aussi grand. Ses armes n'ont pas changé, elles sont tout autant impressionnantes. Et le discours que va tenir Goliath n'a pas changé d'une virgule. Il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entend. Il va voir le même adversaire, il va voir les mêmes armes, il va entendre le même discours que le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu précise qu'à ce moment-là, à la vue de Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et sont saisis d'une grande crainte. Mais David va réagir autrement. David va laisser son cœur se remplir d'un esprit de foi. Il va être animé de par la grâce de Dieu d'un esprit de victoire. Et il va faire savoir que lui, il est prêt à descendre sur le champ de bataille et à affronter Goliath. Le bruit remonte jusqu'au roi Saül qui le fait chercher. Et en présence de Saül, ce jeune David dit au roi que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous entendez bien ? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alors que tout Israël se laissait impressionné, intimidé par la taille de l'ennemi, par la nature de ses armes, par les discours qu'il tenait, David, lui, n'accepte pas le découragement et, saisi de foi, il décide de livrer bataille à l'ennemi. La suite, vous la connaissez. David refuse les armes de Saül, son armure. Lui, un berger, n'est pas habitué à tout cela. Il va simplement descendre sur le champ de bataille avec ses habits de berger, avec sa fronde, avec 5 pierres polies qu'il a ramassées dans le torrent, et arrivé à proximité de Goliath, David dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Le reste sera très rapide Il suffira d'une pierre, la première. David la met dans sa fronde, il fait tournoyer la fronde, il lance la pierre qui pénètre dans le front du Philistin, qui s'écroule sur le champ de bataille. David lui coupe la tête, les Philistins s'enfuient et le peuple d'Israël est vainqueur. Vainqueur parce que un homme, encore une fois devant les mêmes difficultés que les autres, a eu une réaction diamétralement opposée. Tandis que tous se laissent envahir par le découragement et par un esprit de défaite, David, lui, est animé de foi. Jacques écrit dans son épître au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont apposées à vos frères dans le monde. » Une sixième cause du découragement, c'est l'opposition des adversaires de l'Évangile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 12, verset 1er de son Épître, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il vient de nommer tous les héros de la foi dans le chapitre précédent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Écoutez bien, considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ce qui veut dire que nous pouvons très bien, nous laisser décourager, nous laisser envahir par la lassitude devant l'opposition que nous livrent les gens du monde, les pécheurs. Et dans ces moments-là, j'anticipe, j'y reviendrai après, dans ces moments-là, il nous convient de regarder à Jésus parce que lui a subi une opposition de la part des pécheurs comme nous n'en rencontrerons jamais, et lui ne s'est pas découragé. Par conséquent, regardant à Jésus, lui faisant confiance, réclamant son secours, il peut nous donner la victoire puisque lui a déjà triomphé dans de telles situations. Vous savez, le découragement peut s'installer par une peur irraisonnée devant l'ampleur et devant la durée d'une certaine entreprise ou d'une certaine situation. Par exemple, l'opposition qu'un frère ou qu'une sœur va rencontrer dans son foyer. Étant quotidiennement au contact d'un mari inconverti, rebelle à l'Évangile, particulièrement méchant ou violent, ou un frère en compagnie d'une épouse qui, inconvertie, étrangère à l'Évangile, opposée à l'Évangile ou rétrograde, va créer quotidiennement une atmosphère tendue, très difficile à vivre quotidiennement. Ce peut être des parents qui affrontent une situation extrêmement difficile avec un adolescent ou un jeune qui est encore sous leur toit, qui dépend d'eux, mais qui, n'est pas du tout décidé à donner sa vie à Jésus, qui mène une vie qui engendre le chagrin dans le cœur de ses parents, ce sont des situations quotidiennes extrêmement difficiles. Ce peut être aussi des jeunes qui se sont donnés sincèrement de tout leur cœur à Jésus, qui vivent comme de vrais chrétiens, mais qui sont encore sous le même toit de parents qui, eux, ne veulent pas du Seigneur. Et la relation de ces jeunes avec leurs parents est extrêmement difficile à cause de l'Évangile. Ce peut être aussi une opposition dans le voisinage. Un foyer est chrétien, il marche avec le Seigneur de tout son cœur, mais il y a près de chez eux des voisins d'une grande méchanceté parce qu'ils savent qu'ils sont chrétiens et ces voisins ne savent pas quoi inventer pour leur créer toutes sortes de difficultés et c'est parfois extrêmement difficile à vivre. Ce peut être le cas d'un frère, d'une sœur qui m'écoute et qui quotidiennement vit une opposition terrible dans son lieu de travail parce que les collègues savent qu'il ou qu'elle est chrétien ou chrétienne. Alors il y a des colibés, il y a des moqueries, il y a des attitudes blessantes, éprouvantes, qui peuvent amener une lassitude dans l'âme. Vous savez, souvent, l'adversaire livre une guerre d'usure. Une guerre d'usure par les moqueries, la méchanceté sous différentes formes, qui peut aller parfois jusqu'à des menaces, au chantage, aux calomnies, aux souffrances injustes, aux insultes. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de serrer dans notre cœur cette parole de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Relisez les évangiles, le récit de la vie et du ministère de Jésus tel que nous le rapportent les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous verrez que d'un bout à l'autre de sa vie terrestre, Jésus n'a pas cessé d'affronter l'opposition d'une façon terrible. Et lui ne s'est pas découragé, il a tenu bon, il n'a pas flanché, et il vous rendra capable de tenir par sa grâce, par sa force. J'en arrive à la septième cause du découragement, qui est l'intimidation ou les mauvais conseillers. Et je vous amènerai au temps d'Esdras. Le peuple d'Israël était rentré de l'exil, il était revenu dans sa terre, la terre promise, il s'était réorganisé tant bien que mal, on avait reconstruit l'autel des holocaustes, on avait posé même les fondements du temple pour le reconstruire. Évidemment, ça n'a pas fait particulièrement plaisir aux ennemis. Et au chapitre 4 du livre d'Esdras, nous lisons ceci. « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et ils leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Bien-aimés frères et sœurs, le découragement peut aussi venir d'une volonté extérieure à la nôtre, une volonté contrariante qui nous paralyse systématiquement dans nos élans et dans nos intentions. Cela peut provenir de la présence forcée d'ennemis, d'opposants et même de traîtres dans un groupe. Vous remarquez dans le texte que je viens de lire qu'il y a d'abord eu les subtilités des étrangers au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous pourrions adapter en parlant des inconvertis, de ceux qui sont adversaires de l'Église, adversaires de l'Évangile. Vous remarquez qu'il y a eu alors des efforts d'entrepris pour une sorte de mélange, parce que ses ennemis ont eu l'audace de dire « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices ». Donc ils ont, alors qu'ils étaient ennemis, proposé leur aide pour bâtir le temple de Dieu. C'est un comble. Eh bien aujourd'hui, ça se traduit comment ? Par des gens qui sont ennemis de l'Église, ennemis de l'Évangile, mais qui vont avec subtilité, avec hypocrisie, proposer leur aide pour le développement de l'Église et qui auront un langage très délétère. Aujourd'hui, il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas être sectaire, mais au contraire, il faut être tolérant, large d'esprit, accueillant. Allez, je vais oser le mot, il faut être œcuménique. Et il y a alors le danger d'introduire au sein du peuple de Dieu des gens irrégénérés, et le diable ira même dans sa stratégie jusqu'à introduire dans les ministères de la parole de Dieu des hommes qui ne seront même pas régénérés ou nés de nouveau. Il y a là un effort satanique pour tenter de saper l'œuvre de Dieu. Et si cette stratégie ne réussit pas, alors le diable va passer une vitesse de plus et il va décourager le peuple du Seigneur ou tenter de le faire par l'intimidation et les mauvais conseillers. Et nous voyons qu'au temps d'Esdras, dans le rapport qu'il nous est fait dans le livre d'Esdras au chapitre 4, que malheureusement, cette tentative d'intimidation et de découragement a réussi pendant plusieurs années au niveau du peuple d'Israël. Et je dis attention à nos fréquentations. Attention aux gens que nous acceptons de fréquenter. Attention aux influences qui peuvent s'exercer dans nos vies. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de modération, beaucoup de prudence dans le temps où nous sommes, parce que nous avons à tenir intacte notre foi, intacte notre consécration à Dieu, intacte notre sanctification et notre résolution de bâtir la maison de Dieu, certes, mais selon les voies du Seigneur, sans jamais nous en écarter. Et la huitième et dernière cause du découragement que j'aimerais évoquer, c'est la contagion. Parce que le découragement est une maladie spirituelle contagieuse. Si vous voulez être découragé, je vous donne la recette. Il suffit de fréquenter des gens qui sont découragés. Ils vous contamineront parce qu'ils sont porteurs malsains de ce virus terrible. Le découragement s'attrape au contact de gens découragés. Nous connaissons cet épisode de l'histoire d'Israël, un épisode qui n'est pas très glorieux. Moïse avait envoyé des espions pour explorer le pays d'Israël. On arrivait aux frontières, on n'était pas loin d'entrer dans le pays de la promesse, et Moïse envoie 12 espions. Et nous savons ce qui s'est passé. Les espions ont exploré le pays, ils ont pris le temps d'en faire le tour, de bien noter toute la physionomie du pays, et ils reviennent vers Moïse, vers le peuple, et ils font un rapport. Voilà ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Bon, ça, c'est la vérité. Et en voici les fruits. Mais, et après ce bêlement sinistre, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, comme si Dieu ne le savait pas. Les villes sont fortifiées, très grandes. Encore une fois, Dieu le savait. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Et du haut de son ciel, Dieu les avait vus aussi. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais Dieu connaissait aussi la géographie, et il savait très bien où se trouvaient les populations. Et Caleb, qui est animé d'un autre esprit, fait taire le peuple, qui murmure contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Ça, c'était le langage de la foi. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple !» Caleb dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Et les autres disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux, bon ça c'est possible, ils étaient tellement négatifs, nous étions à nos yeux et aux leurs, mais ça c'est pas sûr, comme des sauterelles. » Et le verset suivant, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Le découragement peut être engendré par une estimation exagérée et faussée du danger, au point que l'on devient comme un pygmée devant l'ennemi, au lieu d'être un géant dans la foi. Et ce peut être contagieux, et ce peut être extrêmement dangereux, et ce peut être extrêmement dramatique, parce qu'en définitive, Caleb et Josué, qui avaient le langage de la foi, n'ont pas réussi à stopper les 10 autres espions qui, par leur langage négatif, par leur état d'esprit défaitiste au possible, ont réussi à saper le moral de tout le peuple, l'amener dans le découragement, dans les larmes, dans l'abattement, et ça a coûté cher à Israël, parce qu'Israël a tourné alors 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération de défaitistes et de découragés meure et n'entre pas dans le pays de la promesse. Ce sont leurs enfants qui y sont entrés à leur place. Attention à nos conversations. Attention à nos coups de téléphone. Attention aux visites au cours desquelles certaines personnes, au lieu de parler des promesses de Dieu, de sa bonne parole, de tout ce qu'il s'est engagé à nous donner, s'entretiennent des histoires de l'Église, des défaites, des appréciations négatives, et ainsi démolissent ceux qui les écoutent. Nous avons besoin, avec la grâce de Dieu, de puiser dans le Seigneur toute la force, toute la victoire qu'il y a en lui. Jésus ne s'est jamais découragé. Le Saint-Esprit a la puissance de prendre de ce qui est à Jésus et de nous le donner. Mon frère, ma sœur, qui m'écoute et qui est découragé, je crois que le Saint-Esprit est en mesure, si tu te laisses faire, de prendre de cette puissance, de cette force qui est dans le Christ pour le communiquer à ton cœur, pour communiquer à ton esprit la foi dont tu as besoin pour que tu te dresses à nouveau sur tes pieds, que tu reprennes des forces, que tu reprennes ta marche, que tu reprennes le combat et qu'au nom du Seigneur, tu triomphes. Le Seigneur est capable de mettre ses mains sur tes mains pour que tu tendes l'arc des reins et tu peux dire avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux dire comme David, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.